7h27 minutes. En fin de semaine, on pouvait lire dans les différents médias qu'Ottawa entend lever la moitié des restrictions sur le commerce entre les provinces, qui semble être à la base une excellente nouvelle. Mais la grosse question que j'avais ce week-end en lisant tout ça, c'est pourquoi c'était si complexe avant d'échanger entre les différentes provinces du Canada?
Oui, et moi, la question que j'avais, c'est on va-tu pouvoir faire ça, du commerce interprovinces rapidement pour contrer les tarifs des États-Unis? Me pose cette question-là.
Me semble que si on avait déjà imposé une facilité d'échanger côté commerce entre les provinces, l'impact des menaces Donald Trump aurait été peut-être un petit peu moins inquiétant. Mm-hmm. On va jaser de tout ça avec Gabriel Giguère, qui est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Il est au bout du fil. Gab, bon matin.
Bon matin.
Merci d'être là. Toujours très apprécié, cher ami.
C'est un plaisir partagé.
Gabriel, peut-être commencer avec cette question-là que j'avais en fin de semaine. J'avais besoin de ton expertise. Pourquoi c'était si compliqué? Je trouve que les grands titres, c'est hot, ça semble être une bonne nouvelle qu'on veut lever la moitié des restrictions sur le commerce entre les provinces. Pourquoi c'était si compliqué, le commerce interprovinces?
Ben là, déjà, il faut juste que je dise quelque chose qui est dommage. Mais ouais. Les grands titres, des fois, c'est pas le message complet.
Parce
que moi aussi, je me suis fait pogner, là. Vendredi dernier, je me suis dit, Colin, c'est le fun, ça. Au Canada, on va faire baisser la moitié des barrières au commerce interprovincial. Mais le diable est dans les détails, là. Quand on va lire le communiqué de presse, essentiellement, ce qu'on apprend, c'est que dans l'accord de libre-échange canadien, on le sait, les provinces ont des barrières, hein, pour le commerce. Mais il n'y a pas juste les provinces, il y a aussi à l'échelle canadienne. Ça touche beaucoup les marchés d'approvisionnement liés à ce qu'on appelle là, des organismes ou des ministères de l'État fédéral. Donc, c'est de ça qu'on parle ici.
Okay.
On parle des barrières du Canada, parce que les barrières provinciales, essentiellement, c'est les provinces là, qui viennent les protéger. Alors, si on reste sur ces barrières-là au fédéral, ou à l'échelle du Canada, ce qu'on constate, c'est que l'année dernière, en janvier 2024, on en avait 57. Là, le gouvernement s'est dit, c'est trop, on va descendre ça à 39. Puis là, en fin de semaine, comme t'as dit, on apprend que le gouvernement s'est dit, c'est encore trop. Puis d'ailleurs, c'est une bonne chose que le gouvernement fédéral comprenne que les barrières sont inutiles puis viennent réduire la productivité. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est, on va couper de 50% nos barrières à nous.
OK. Attends, fait que je te relance, Gabriel, là-dessus. OK. Pourquoi c'est si compliqué l'échange commercial entre les provinces?
C'est terrible. C'est vraiment terrible. Il y a déjà des... En fait, il faut quand même dire qu'il y a un bon volume d'échanges. C'est plusieurs points de PIB. Là, je crois que c'est un tout petit peu en dessous de 20% du PIB du Canada. Il y a beaucoup d'échanges là au Canada. Faut le dire, entre les provinces, mais ça pourrait être facilité. Je pense que là, évidemment, on est 8 jours avant la date fatidique du 4 mars, étant la date où on devrait avoir 25% si on se fie à ce que Donald Trump dit. Donc, il faut trouver des solutions d'aller plus rapidement. Puis malheureusement, comme tu le dis, c'est tellement compliqué de se dire, là, les provinces, on va aller autour d'une table, puis on va décider qu'on retire nos barrières. Essentiellement, là, c'est comme si on avait tous des petits lobbies. Le lobby laitier, le lobby forestier, le lobby des mines, qui s'en va voir le gouvernement du Québec, puis qui va lui dire, là, continue donc de me protéger, là, j'ai pas envie d'avoir de la concurrence. Là, ils vont faire ça à tous les ministres provinciaux, puis ils vont dire, non, moi, j'ai besoin de m'assurer d'avoir... Puis là, ils vont sortir des longues lignes, là, l'économie résiliente du Québec. Mais au final, l'économie résiliente du Québec, ça serait que d'avoir plus de commerce. Fait que ça, c'est la dynamique actuelle. Par contre, je me permets de le dire, je trouve ça intéressant, parce que la semaine dernière, on a eu un mouvement. Évidemment, moi, j'aimerais ça que ça soit fait il y a 2 semaines, là. Mais on a eu un mouvement vers le fait que certaines provinces se disent, regarde, écoute, peut-être que c'est le temps, là. La Nouvelle-Écosse est allée dans les... En fait, le premier ministre Tim Houston de la Nouvelle-Écosse est allé dans les médias pour dire, écoutez, là, moi, je vais déposer un projet de loi. Puis ce que je vais dire, c'est que je vais faire tomber toutes les barrières.
Okay.
Pour chaque province qui font la même chose avec moi.
OK.
C'est un pas dans la bonne direction,
ouais,
quand même.
Ouais.
Pas parfait. Moi, j'aurais aimé ça qu'il dise, regardez, moi, j'ai fait tomber mes barrières, là, puis je pense que je donne le lead, là, tu sais. Je prends le taureau par les cornes, puis les autres provinces vont me suivre. On n'en est pas là.
Ouais, parce que là, il y a plus imposé le fait que les autres provinces vont laisser tomber leurs barrières aussi avec cette stratégie.
C'est ça. Mais tu sais, je me dis, c'est un pas dans la bonne direction, mais franchement, fais tomber tes barrières, ça serait déjà mieux. Par contre, l'Ontario a dit, nous autres, on est intéressés. Parce que là, on voit qu'il commence à avoir un dynamisme au niveau des provinces. malheureusement, moi, évidemment, je regarde souvent le Québec, puis je me dis, il est où? Il est où, le Québec? Je le vois pas, sa map. Fait que là, malheureusement, au niveau de François Legault puis du gouvernement du Québec, on voit pas nécessairement cet appétit-là de répondre présent à l'offre de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, fait que c'est un peu ça, la dynamique, là, où, oui, on a eu des titres intéressants, là, wow, enfin, ça avance, mais ça avance moins rapidement que ce qu'on aurait aimé, là.
Okay. Gabriel, est-ce que au Québec particulièrement, là, parce que tu viens de dire que François Legault, il est pas intéressé à faire tomber ces barrières-là, on critique beaucoup l'administration Trump pour ses tarifs et sa politique protectionniste économique. Mais ce que je comprends, c'est qu'avec nos barrières, on fait exactement les mêmes gestes que Donald Trump fait aux États-Unis.
Ouais, c'est sûr que... Puis c'est correct de le critiquer, Donald Trump. Là, je vais être le premier à le critiquer, puis ils ont raison de le faire. Puis contre, en réalité, c'est ça, là. C'est qu'on on veut pas avoir des tarifs douaniers, mais on impose des barrières non tarifaires à des partenaires. Je veux dire, les autres provinces canadiennes sont clairement des partenaires commerciaux de premier plan. Fait qu'effectivement, on va mettre des bâtons dans les roues des autres entreprises au Québec. Puis encore une fois, on l'a dit, hein, mais 36 barrières maintenant au commerce interprovincial. On est de loin la province qui met le plus de bâtons dans les roues. Évidemment, il y a toujours des lieux communs comme la question de l'alcool ou, ben, pas mal toutes les provinces ont leur monopole, puis ils veulent garder ce monopole-là de distribution, de vente au détail. Donc, pas possible d'aller sur un site Internet de la LCBO puis de faire commander une bouteille qui arrive directement chez toi. Ça, c'est sûr, mais en même temps, le Québec devrait faire beaucoup plus, là, devrait réduire tout ce qui est au niveau de la foresterie, tout ce qui est au niveau des mines, puis j'en passe, là, mais ça, c'est pour moi, c'est tellement facile, c'est ce qu'on dit, c'est le low-hanging fruit, là, la prise de fruits facile dans l'arbre, là, tu sais, c'est le temps, malheureusement, on voit rien de ça. J'ai quand même bon espoir que dans les prochaines semaines, on va avoir plus. Ben, en fait, je fais attention, mais je dirais que si les tarifs douaniers vont de l'avant dans 8 jours, à un moment donné, le gouvernement du Québec va devoir bouger, là. Et on pourra pas faire du surplace. On va des entreprises qui vont avoir beaucoup de difficultés. On va se dire, mais là, on va pas les laisser absorber le 25% puis dire, ben, bonne chance. Ben non, il va falloir qu'on trouve des solutions. Puis la question des barrières au commerce interprovincial ne remplacera pas le marché américain, évidemment. Là, tu remplaces pas presque 380 millions de personnes avec 40 millions, mais ça reste que ça donne des débouchés de marché intéressants.
Quand on parle de ces barrières-là, de les lever, ben on comprend que ce serait super bon pour l'économie canadienne en général. Maintenant, est-ce que ça pourrait être mauvais pour des provinces en particulier? Certaines provinces, est-ce que ça pourrait leur faire mal?
Mais écoutez, quand on regarde les projections de se dire si on abolit tous les barrières au commerce interprovincial, que ce soit dans la non-harmonisation de la réglementation, que ce soit les barrières qui sont codifiées dans l'accord de libre-échange canadien, ben ce qu'on constate, c'est que les petites provinces de l'Atlantique pourraient gagner beaucoup parce que là, il y aurait plus de concurrence et donc il y aurait une réduction potentiellement des prix payés, donc encore de l'argent de plus pour les entreprises qui pourraient réinvestir, bref. Ce qu'on constate, c'est que les provinces de l'Atlantique vont beaucoup gagner. En fait, tout le monde gagne. Faut être clair, là, tout le monde aurait une augmentation du PIB par habitant. Ça, c'est évident. Le Québec gagnerait beaucoup également. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact négatif. Je pense que c'est une vieille vision où on a des secteurs qu'on veut protéger. Puis j'aimerais savoir quelle est la force des lobbies. On le sait que le lobby laitier est très fort. On le sait que le lobby agricole est très fort. Mais quand on regarde ça, on se dit, mais comment ça, en plusieurs années, le Québec n'a pas bougé? Ça me semble un petit peu particulier. Puis évidemment, quand on pense aux secteurs qui sont touchés par la non-harmonisation et les barrières codifiées, il y en a certains qu'on pense même pas. Et prenons l'automobile, par exemple. Regardez ça, puis l'automobile, c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les provinces qui ont les mêmes réglementations de recyclage, notamment des pneus. Donc, ça va faire en sorte que ça va augmenter le fardeau administratif pour les manufacturiers, puis ça va se transférer après ça sur le coût aux consommateurs. Donc, ces éléments-là, si on peut harmoniser la réglementation, elle permettrait aussi de réduire le prix pour le consommateur au Canada. Donc, je pense que ça va vraiment falloir aller dans la seconde vitesse pour s'assurer que s'il y a des tarifs dans 8 jours, puis honnêtement, même s'il n'y a pas de tarifs, je pense que ça fera pas de mal que d'avoir un marché plus intégré au Canada.
Tu parles, Gabriel, de vieille vision. Quand on a amené ces barrières tarifaires-là au Canada il y a longtemps, longtemps de ça, est-ce qu'il y avait des avantages ou c'était encore une fois juste une affaire de lobby puissant?
C'est une bonne question. Tu sais, la question le commerce interprovinciale. Cette idée-là qu'il faut s'assurer d'avoir plus de commerce, ça date de longtemps. Là, tu sais, déjà en 1995, on avait un premier accord. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être une approche qui, je pense, n'avait pas lieu d'être, mais qui pouvait justifier en se disant, ah, ben regardez, on a un haut taux de chômage, un petit peu comme les métiers de la construction au Québec, où on a décidé d'avoir plusieurs métiers de la construction, on avait 8, 9, 10 % de taux de chômage, là, on voulait protéger. En réalité, aujourd'hui, on n'est pas là du tout. Puis même à la base, j'aurais pas fait ça comme ça, là, personnellement, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne fait aucun sens que de garder cette dynamique-là, ces barrières-là, dans un contexte où on n'a pas besoin de protéger des secteurs, on veut juste s'assurer que le consommateur en ait plus pour son argent. Puis si on baisse nos barrières, que c'est dans n'importe quel secteur, ce que ça va faire concrètement, c'est que ça va augmenter le marché potentiel pour nos entreprises, mais également pour les entreprises de l'Ontario. Concrètement, ça veut dire que si il y a plus d'entreprises qui jouent sur les mêmes marchés, on va avoir plus de concurrence. Puis plus de concurrence veut dire probablement une baisse de prix, une hausse de l'innovation, donc une hausse de la productivité. Bref, je vois juste du positif ici. Donc, c'est assez compliqué là de regarder cette vieille vision protectionniste, puis comme tu l'as très bien dit, qui est proche quand même de la vision de Donald Trump de nous dire « Non, non, moi aussi, je suis protectionniste, je vais mettre 25 %. » On a quand même des barrières qu'on appelle non tarifaires qui s'inscrivent dans cette même idée. Là.
Ouais, d'ailleurs, t'as pas mal répondu à ma prochaine question, Gabriel, avec tes deux dernières réponses, mais juste pour m'assurer que je suis pas dans le champ, on s'entend que les changements qu'on veut apporter, la transformation de l'échange commercial entre nos provinces, faut pas que ce soit quelque chose qu'on est juste en train de mettre en place parce qu'il y a des menaces Donald Trump. C'est quelque chose qu'on devrait mettre en place à long terme, non?
Tout à fait. Moi, je pense que c'est vraiment le prétexte. Tu sais, des fois, ça prend un contexte politique pour des vrais changements de politique publique. Je trouve ça malheureux. Mais sur le fond, tu as totalement raison. Qu'il y ait des menaces ou pas, pourquoi c'est difficile pour des entreprises ontariennes de faire affaire avec le Québec? C'est un petit peu particulier. Donc, c'est vraiment juste un prétexte politique. Malheureusement, c'est comme ça dans le monde dans lequel nous vivons. Hein. Faut des fois devant être la réalité puis le choc pour agir. Je pense que ça va être une chose qui est dommage. Mais si on n'a pas de tarifs douaniers, j'espère simplement que cette urgence-là, là, qui est ressentie au fédéral comme dans certaines provinces, ne va pas simplement s'évaporer. À cette urgence-là de s'assurer qu'il y ait plus de commerce, ça ne sera que bénéfique pour les entreprises québécoises puis l'ensemble des entreprises, puis au final, ben, les Canadiens puis les Canadiennes. Donc, effectivement, c'est pas lié au 25%, c'est simplement un prétexte. Mais un bon prétexte, hein, parce que dans le contexte aussi, les entreprises perdent des contrats à cause de la hausse des tarifs douaniers américains, ben ça pourrait quand même servir de débouché, même si ça ne viendra pas mettre le plaster sur le gros bobo.
Gabriel, en terminant rapidement, faut pas se mettre la tête dans le sable. Par exemple, s'il y a tarif le 9 mars prochain, il va quand même avoir une période de perturbation pour nos entreprises parce que, par exemple, un Boss Atlas qui fait de la business énormément avec l'Est des États-Unis, notamment le marché de la Nouvelle-Angleterre, le temps qu'il se tourne, par exemple, vers les provinces de l'Atlantique, il va avoir une perte de revenus importante là, dans cette période-là.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs entreprises, en tout cas, je l'espère qu'il y a plusieurs entreprises qui ont déjà commencé à regarder de nouveaux débouchés, que ce soit au Canada ou à l'international, parce que il y a beaucoup d'incertitudes, là. Qu'est-ce qui nous dit pas que dans une semaine, on va se reparler, puis, oups, la veille, on va avoir appris que Donald Trump se dit, ben, ça va être le 15 mars ou le 21 mars, finalement, puis on est dans un cycle infini où on a toujours l'épée de Damoclès des tarifs douaniers sur la tête. Effectivement, écoute, j'espère que les entreprises vont déjà commencer à regarder. Puis, du côté du gouvernement Legault, de voir cette dynamique-là, je pense que c'est là aussi qu'on peut se dire, écoute, là, les entreprises, ça peut être difficile dans le contexte où ils perdent beaucoup de ventes, ils perdent des chiffres d'affaires, peut-être que ça sera pas du tout rentable 2025, et baisser l'imposition fiscale, là, qui est la pression fiscale plutôt, qui est déjà élevée au Québec, de s'assurer que les entrepreneurs n'aient pas besoin d'envoyer autant d'argent que d'habitude à Québec pour en garder plus dans leur poche. Déjà, je pense que ça pourrait réduire la pression en plus du commerce interprovincial, c'est pas nécessairement parfait, mais c'est quand même mieux que de simplement imprimer de l'argent puis potentiellement de causer de l'inflation. Là.
Gabriel Giguère est analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, merci infiniment, toujours très apprécié. Jaser avec toi et ton analyse.
Ben, un gros plaisir.
À bientôt.
Bye bye.
Salut Gabriel.
Gabriel Giguère, toujours fait. Ça répond pas mal à mes. Ouais. C'est la grosse question que j'avais en fin de semaine. C'était juste comme pourquoi c'est, on est le même pays, là. Je sais que chaque province a ses forces, ses faiblesses. Mm-hmm. On veut protéger aussi ce qu'on exporte ou ce qu'on vend. Mais tu sais, à quelque part, il faut que ce soit plus simple, me semble, entre les provinces du Canada. Là.
Oui, et ce que j'aurais comme souhait à formuler, c'est que le Québec emboîte le pas de la Nouvelle-Écosse et fasse justement disparaître ces fameuses barrières-là. Faut être fort. Entre nous, on parle de patriotisme canadien. On était tous heureux de voir le drapeau du Canada se lever dans le TD Garden jeudi avec les spectateurs et les joueurs de la Ligue nationale qui chantaient le Haut Canada. Mais il faut des gestes concrets en économie, dans plein d'autres domaines pour réaffirmer notre patriotisme canadien. Pas juste une chanson à être canadien.
C'est un très bon point. Très bon point. Y a une pétition qui a été lancée par un député fédéral pour retirer la citoyenneté canadienne à Elon Musk. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Est-ce que ça serait une bonne idée de le faire si ça se peut? On va jaser tout ça avec le vulgarisateur d'actualité, Fernel Morissette. On s'arrête deux